Bienvenue dans un tout nouvel épisode de ce podcast dans lequel j'échange chaque semaine avec une personne inspirante qui est devenue libre selon sa propre définition grâce au code. Aujourd'hui, je reçois Benjamin, développeur depuis 12 ans maintenant, qui s'est expatrié à Montréal depuis 5 ans et qui lance une start-up en parallèle de son CDI. Alors cet échange avec Benjamin, je pense qu'il va beaucoup vous intéresser parce qu'on va voir un peu comment il a fait pour s'expatrier au niveau des papiers, de la logistique, etc. Mais aussi de comment il a fait pour trouver un job à l'autre bout de l'Atlantique. Et bien sûr, on va aussi pas mal échanger sur la création de sa start-up et comment il fait pour gérer tout ça entre son business, sa famille et son emploi à plein temps. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à donner une note et un avis sur la plateforme que vous utilisez. Et en attendant, je vous laisse apprécier mon échange passionnant avec Benjamin. Salut Benjamin, bienvenue déjà. Est-ce que dans un premier temps, avant qu'on rentre un peu dans des discussions assez profondes, voire même techniques, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter en quelques lignes ?
Ouais, ok. Alors moi, c'est Benjamin, j'ai 33 ans, j'habite à Montréal, je suis originaire du nord de la France, de Boulogne-sur-Mer. Je suis marié, j'ai une petite fille de 6 mois qui s'appelle Serena. Ça fait 12 ans que je suis développeur, donc j'ai commencé ma carrière en France et puis là, je vis à Montréal depuis un peu plus de 5 ans. Et depuis 3 ans, j'ai lancé en fait une start-up avec des collègues, un outil de rétrospective en ligne qui s'appelle Nitro. Et en fait, j'ai fait ça tout en gardant mon travail. Donc là, actuellement, j'ai un peu deux travails. Je suis développeur pour Office Vibe, un produit à Montréal la journée. Et le soir et les week-ends, je travaille sur mon application.
Ok, j'aime bien comment t'expliques tes deux activités. Je fais ça la journée et ensuite je fais ça le soir, un peu dans l'ombre. Top. Écoute, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ton job, reparler un peu plus en profondeur de ta deuxième activité ?
Est-ce que tu veux que je parle surtout de mon job actuel ou tu veux que je revienne un peu sur ma carrière, comment j'ai commencé, etc.
Bah ouais, je veux bien. Alors j'allais y venir juste après, mais du coup ouais, je veux bien que tu nous résumes très rapidement hein, à la limite tes études et puis ouais ton début de carrière et puis surtout comment t'en es arrivé là jusqu'à aujourd'hui un poste de salarié à Montréal.
Ben, au niveau études, j'ai fait un bac S. Et puis en sortant de là, je me suis orienté vers l'informatique un petit peu par défaut parce que j'ai toujours été passionné de jeux vidéo et puis de jeux sur PC. Donc forcément, j'ai monté beaucoup d'ordinateurs, etc. Donc après, ça a été un peu logique que je monte vers l'informatique. Et puis je suis parti sur le dev parce que j'avais déjà créé un site internet quand j'avais 13-14 ans, j'avais trouvé ça cool. Et puis, j'ai voulu continuer ça pour ma vie pro. Donc, j'ai commencé, j'ai fait un an de DUT que j'ai raté parce que je n'étais pas très assidu, on va dire. Après, j'ai enchaîné, j'ai recommencé avec un BTS, informatique de gestion, option développeur d'application, que j'ai terminé. Après, j'ai fait une licence pro, réseau et télécommunications, je pense. Et puis, donc ça me faisait Bac plus 3. Et puis après, j'ai directement cherché du travail en tant que développeur web, parce que c'est ça que je voulais faire, là, vu que mon attrait pour le développement, ça venait de la création d'un site web. J'avais toujours voulu être développeur web, donc j'ai commencé ma carrière de développeur web en 2009. J'ai commencé dans une petite compagnie qui faisait des sites internet pour des éleveurs, pour gérer des moutons, des vaches, etc. C'était assez drôle. Puis après, je suis rentré dans le monde des SS2I. J'ai fait plusieurs missions dans des compagnies assez variées, des assurances, des choses comme ça, des mutuelles, etc. Et puis après, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus vraiment... Donc, c'était dans la région lilloise, tout ça. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus vraiment d'entreprises qui me tentaient et puis surtout auxquelles je pouvais accéder avec mon niveau à l'époque de développeur dans la région lilloise. Donc, je me suis dit, tiens, je vais regarder à l'étranger. Et puis, j'ai trouvé un boulot à Montréal de dev front-end. Et puis, je me suis dit, allez, c'est parti, je me lance. J'ai été pris et puis tout a été très vite. Quelques mois après, je recommençais entre guillemets une carrière à Montréal. Et puis en fait, ce travail-là que j'avais trouvé depuis la France à Montréal, ça s'est pas très bien passé parce que quand je suis arrivé, en fait, tous les employés avaient démissionné. Il restait plus que deux personnes qui étaient en train de partir, donc ils m'ont dit je pense que pour ta carrière, c'est mieux que tu cherches un travail tout de suite. J'ai directement cherché un nouveau travail quasiment dans les deux mois après être arrivé à Montréal, c'est une période un peu stressante. Et puis, j'ai trouvé mon travail actuel donc dans une société qui s'appelle Gsoft et puis pour un produit qui s'appelle Office Vibe, qui est en fait une plateforme pour aider les sociétés à mesurer l'engagement de leurs employés via des sondages, via des questionnaires, etc., de façon régulière.
Alors, si on peut juste faire un petit pas en arrière, comment tu as trouvé, enfin, toi qui as eu différentes expériences en termes de format et de type d'entreprise, donc tu nous dis que tu as commencé avec une entreprise, on va dire, classique où tu étais embauché en tant que développeur. Voilà. Et après, tu es allé dans une SS2I. Donc, une SS2I, pour ceux qui connaissent pas, si je le définis bien, en gros, c'est tu es embauché par cette entreprise. Et tu vas travailler dans d'autres entreprises parce que, en gros, ton employeur, il est en contact avec des clients et ensuite il dispatche un peu leur effectif chez d'autres entreprises. Et toi, tu es embauché par une entreprise, mais tu vas en général travailler dans les bureaux d'une autre. C'est ça?
Exact. Et pour un salaire. Donc,
Voilà,
même si ton
oui.
employeur est payé, enfin, se fait payer à la journée pour tes services, toi, t'es payé un salaire.
Ouais, d'accord, ok.
En fait, c'est un peu comme c'est du freelance avec sans les avantages, on va dire, donc sans l'argent. Mais t'as quand même l'avantage que c'est ton employeur qui t'aide forcément à trouver des missions, donc t'as pas le stress de devoir trouver des contrats toi-même.
Ouais, carrément. Et comment t'as vécu cette période dans SS2I? Enfin, c'est quoi pour toi la vision de ce type d'entreprise?
Alors moi, en fait, je suis parti au moment où ça aurait peut-être commencé à un peu mal tourner. En fait, ils m'ont embauché sur contrat, non, sur projet, je pense, ça se disait comme ça. C'est qu'en fait, ils ont déjà un client qui est intéressé par une ressource et ils t'embauchent pour combler ce besoin.
D'accord.
Ce qui n'est pas très, très legit de mémoire dans les pratiques. En principe, tu es embauché sur profil. Et puis après, on te place sur des missions en te demandant un peu ce que tu fais. Je ne suis pas sûr à 100%, mais moi, j'avais eu des échos comme quoi ce n'était pas vraiment une très bonne pratique d'embaucher quelqu'un pour le placer directement, tu sais. Donc en fait, moi, j'avais été embauché comme ça. Donc j'avais passé un entretien pour la SS2I, mais ils savaient très bien qu'ils voulaient me placer déjà sur un poste. Donc j'ai directement commencé sur ce poste-là. Je suis resté en mission pendant un an. Et en fait, je suis parti au moment où la mission s'arrêtait, parce qu'au niveau visibilité sur la suite, c'était très, très trouble, on va dire. En fait, j'allais rentrer dans une période qui s'appelle l'intercontrat, où ben, t'es payé, la SS2I doit te payer parce que tu es salarié, mais il n'y a pas de contrat pour toi. Donc, j'ai préféré prendre les devants et chercher autre chose.
Ouais, pour un profil comme le tien, et puis je pense comme la plupart des personnes qui sont dans le monde du développement, bon, c'est vrai, le salaire c'est quelque chose, mais on fait ça avant tout pour la créativité, et rester 2 semaines, 1 mois sans rien faire, bah non, ça vaut pas un salaire, quoi.
Et puis,
Donc.
dans mon entourage, on se parlait beaucoup. Il y avait beaucoup de monde qui était en SS2I. Là où je travaillais, il y avait des gens d'autres SS2I. Et puis, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'histoires de gens en intercontrat à qui on proposait des missions vraiment, vraiment pas intéressantes, voire même genre très, très éloignées, etc., pour les pousser un petit peu à lâcher le morceau, à aller chercher ailleurs, juste leur faire comprendre qu'il n'y avait rien, plus rien pour eux. Alors, je ne dis pas que c'est ça la norme dans les SS2I. Mais en fait, le fait d'avoir ces petites histoires-là qui circulent dans ton réseau, et puis tu sais, un peu la mauvaise réputation des pratiques dans les SS2I, ça m'a fait me dire, bon, même si je suis peut-être dans une SS2I qui fait super bien les choses et tout, mais je n'ai pas envie de prendre le risque. Et puis de toute façon, je n'avais pas envie de retourner encore dans des contrats, etc. J'avais envie de pouvoir construire ma carrière, en fait. J'avais un profil encore très junior, j'avais que 2 ans d'expérience. Je me suis dit, j'aimerais bien trouver un produit ou une société où je pourrais commencer vraiment à bâtir quelque chose, à bâtir une expertise et puis à avancer.
D'accord, ok, top. Bon, si tu le veux bien, on va directement faire un saut dans le temps là et puis passer sur ce transfert, cette expatriation à Montréal. Donc, tu nous dis effectivement que tu avais trouvé un job. Donc là, tu étais encore en France et tu t'es expatrié. Disons que tu savais déjà où tu allais atterrir. Ça s'est pas si bien passé, ou en tout cas, tu as dû réagir assez rapidement 2 mois après être arrivé là. Donc, comment tu as vécu cette expatriation? Comment, donc, déjà, tu as vécu tes premiers jours, tes premières semaines au Canada, et puis après, comment est-ce que tu as fait pour réagir et trouver un job assez rapidement, une fois que tu avais perdu le premier?
Ok. Bah en fait, toute la partie de recherche de travail, de décrocher mon contrat, etc., tout s'est fait à distance. Ça s'est quand même bien fait. Genre, j'ai pas eu de flag que ça allait être bizarre en arrivant. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier 2015, j'ai trouvé mon travail dans la société qui m'a embauché à Montréal. J'avais mon mariage qui était prévu en septembre 2015, donc je suis resté en France forcément jusqu'en septembre, sinon ça aurait été un peu complexe. Et puis en fait, je suis arrivé à Montréal en janvier 2016. Le deal avec mon futur boss, c'était que je devais commencer de mémoire le 18 janvier ou quelque chose comme ça 2016. Donc voilà, on est parti, on est arrivé à Montréal. Donc le début, les premières semaines à Montréal, c'est un peu, t'as l'impression un peu d'être en vacances, tu sais, genre, bon, même si c'était l'hiver, c'était vraiment pas la période la plus agréable pour arriver à Montréal, mais tu visites, tu découvres un peu la ville, tu prends tes marques, tu t'essaies de t'imprégner un peu de la culture, des magasins, etc., de vraiment un peu t'acclimater. Donc les premières semaines, c'était plutôt tranquille. Sauf que la veille de commencer, il m'envoie un message ou il m'appelle, je sais plus, pour me dire que je ne peux pas commencer tout de suite. Et puis, il décale ma date de début de 2 semaines. Donc déjà, ça, c'était le premier coup dur. Genre, on n'avait pas du tout de revenus.
Ouais, 2 semaines,
Et
ça
puis,
fait beaucoup.
on était à l'étranger. Et puis, ça engendre quand même pas mal de frais de s'expatrier. Déjà, tu as tous les frais reliés à payer les permis de travail. Ensuite, tu as les billets d'avion. T'as des frais là-bas. Tu dois payer ton loyer directement, etc. Donc, on a dit, OK, on va prendre les 2 semaines et puis attendre. Je pense qu'il m'a encore rappelé pour redécaler d'une semaine. Et puis finalement, au bout de 3 semaines, j'ai pu commencer. Donc déjà, tu vois, j'avais un a priori un peu assez négatif là. Genre,
Ouais,
ça fait
je
un an qu'on
m'étonne.
s'est mis d'accord. Et puis la veille de ma date de début, il décale. Enfin, ça sentait pas très bon. À l'époque où j'avais passé les entretiens, ils étaient 20 dans la société. J'arrive, il n'y a plus que 2 devs. Donc il reste le boss et 2 devs. Et puis les bureaux de la société, c'est dans un hôtel. Enfin vraiment, je sais pas. Je trouve que c'était le plan un peu bizarre là. Genre, et puis j'arrive, les 2 devs, donc c'était 2 Français aussi, un qui était là depuis pas longtemps à Montréal, depuis peut-être un an, et puis un autre qui vivait depuis plus longtemps, depuis peut-être 5 ou 6 ans. Et puis les deux en fait étaient en train de partir. Il y en a un qui avait déjà posé sa démission, et l'autre, sa copine était enceinte, il attendait juste l'été pour partir. Donc leur discours direct, ça a été, bah, faut que tu cherches quelque chose d'autre.
Ouais.
Donc là, j'ai commencé à chercher. Et puis, en fait, j'ai rapidement trouvé chez mon employeur actuel. Sauf que vu que j'avais un permis de travail qui était fermé à cet employeur-là, il a fallu que je refasse des démarches d'immigration, entre guillemets, pour avoir un nouveau permis de travail. Donc, ça a pris plusieurs mois avant qu'en fait… En fait, j'ai trouvé mon nouveau boulot en mars et j'ai commencé en juillet à cause des
Ouais, OK.
démarches.
Ouais, c'est ça, j'allais te demander ces démarches-là, parce que bon, on sait que voilà, on entend beaucoup de choses dire que pour les États-Unis, c'est extrêmement compliqué d'aller travailler là-bas, même si il y a une certaine expertise française qui est recherchée, au Canada aussi. Comment ça s'est passé au niveau des visas? Effectivement, tu nous disais que ton visa était associé à un employeur, du coup c'était un peu galère de changer de travail. Et c'est vrai que quand on voit des documentaires à la télé, bah les gens nous expliquent, les expatriés français ou pas d'ailleurs, nous expliquent que ouais, c'est hyper bien, il y a vraiment une autre mentalité, etc., etc., mais que si tu enfin comme en fait on peut perdre son job du jour au lendemain, c'est bien parce qu'on peut en trouver un du jour au lendemain, mais comme en fait ton droit d'être sur ce sol-là est lié à ton travail, si tu perds ton job, bah t'es obligé de partir, quoi. Donc comment t'as vécu ça? Est-ce que la paperasse, ça a été compliqué pour toi?
Ouais, bah ça a toujours été des situations assez stressantes. En fait, comme tu dis, déjà, rien que le fait que ton boulot soit lié à ton statut d'immigré, la crainte de le perdre, c'est quelque chose qui est assez stressant. Pour ce qui est des démarches, honnêtement, c'est jamais facile de savoir exactement ce qu'il faut faire. Genre, par exemple, moi, ça a pris 3 mois, même 4 mois pour avoir un nouveau permis de travail, parce que j'ai dû recommencer, parce que je m'étais basé sur un tutoriel qui était périmé, et puis ça fitait plus avec les nouveaux formulaires. Donc, j'ai oublié de mettre un numéro d'offre à l'intérieur. Ma demande a été refusée. Donc, tu sais, tu n'as aucune communication sur l'état de ton dossier. Genre, tu peux suivre ton statut sur Internet, mais en gros, entre le 0% et le 100%, il ne se passe rien. Donc ça, tu es un peu dans le flou constamment, tu es vraiment dans le noir quand t'envoies des formulaires pour faire changer ton statut. Donc ça, c'est un truc qui est assez stressant. Et puis ouais, tu es vraiment un peu attaché à ton employeur, donc il vaut mieux que ça se passe bien. Sinon, il faut absolument que tu arrives à avoir un nouveau permis de travail, là. Sinon, tu es obligé de rentrer. Parce que si tu
Ouais.
travailles avec un permis de travail, en fait, si tu travailles pour un autre employeur que celui qui est sur ton permis de travail, tu vas te faire repérer direct parce que c'est lié à ton numéro d'assuré social que ton employeur déclare pour te payer. Donc, ils vont directement avoir un flag comme quoi il y a un employeur non autorisé qui te verse de l'argent. Donc ouais, c'est quand même assez stressant. En fait, le but, c'est de subir, entre guillemets, cette période un peu qui fait un peu flipper de temps en temps, sauf si tout se passe bien chez ton employeur. Et puis, ce qui était le cas chez mon employeur actuel, où tout s'est bien passé, donc j'avais plus du tout le stress du permis de travail fermé. Mais en gros, le but, c'est de vivre toute cette période-là jusqu'à la résidence permanente, ou au moins jusqu'au certificat de sélection du Québec, qui, lui, te permet de changer de permis de travail vraiment plus facilement.
D'accord, ok. Et
Une sorte de statut intermédiaire en fait entre ton permis de travail temporaire et la résidence permanente. Tu dois demander ce qu'on appelle le CSQ, et puis ça, c'est un papier qui fait que tu peux quasiment aller à la frontière et avoir un nouveau permis de travail directement après avoir changé d'employeur. Ça enlève pas tout le stress, mais c'est beaucoup plus simple que quand tu l'as pas.
ouais, carrément. Et c'est de combien cette période? Il faut attendre combien de temps? Enfin, faut travailler sur le sol pendant combien de temps?
Donc, en principe, les permis de travail fermés, c'est 2 ans. Donc, au bout d'un an, tu peux demander le CSQ. Donc, ça prend. Alors, en 2017, ça prenait 3 semaines à arriver. Donc, je ne sais pas les délais aujourd'hui. Mais en gros, au bout de 3 semaines, tu as ton papier qui te permet de changer beaucoup plus facilement de permis de travail. Et puis après, là, tu envoies ta demande de résidence permanente dès que tu as le CSQ. Moi, ça a pris 24 mois pour avoir ma résidence permanente.
Ok, 24 mois à partir du moment où t'es arrivé sur le sol canadien.
Non, à partir du moment où j'ai envoyé ma demande de résidence permanente. Donc, à
Ouais.
partir du moment où j'ai posté le dossier à la poste, j'ai attendu 2 ans pour l'avoir. Ouais, c'était assez intense.
Ouais, donc effectivement, il faut en avoir conscience. Mais bon, je pense qu'à partir du moment où on prévoit de s'expatrier comme ça, bon, on s'est renseigné un peu avant. Mais en même temps, tu nous dis, là, t'es quand même vraiment mal tombé. Enfin, je pense que très peu de gens comme ça qui arrivent au Canada se font un peu mettre à la porte au bout de 2 mois. Et pour autant, t'as retrouvé assez facilement un travail. Enfin, je veux dire, ça a dû être hyper stressant, mais bon, t'étais pas non plus un cas exceptionnel. Ouais, tu
Ça, c'est vraiment
penses?
parce que je suis dev. Le marché des devs à Montréal, il est vraiment très agressif, entre guillemets, dans le bon sens, enfin, pour nous. C'est
Ouais.
vraiment facile de changer de travail. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de demandes. Mais des histoires comme ça, dans d'autres secteurs d'activité, ça peut. En fait, je pense, il n'y a pas vraiment beaucoup d'histoires d'horreur, entre guillemets, de t'arrives et tu te fais virer direct. Ça arrive, mais je pense que la grande majorité des cas, ça se passe bien. Mais quand ça arrive à un développeur, c'est beaucoup plus facile de se relever que quand ça arrive à, je sais pas, quelqu'un qui est serveur ou quelqu'un qui est, je sais pas, peut-être comptable dans d'autres secteurs d'activité. Ça dépend vraiment du marché.
Ok. Et donc juste pour remettre un peu des comment dire des enfin des timestamps dessus, t'es parti au Canada combien de temps? Enfin, t'avais combien de temps d'expérience, combien d'années d'expérience en tant que dev?
J'avais 6 ans.
Et tu penses que selon toi c'est un peu un minimum ou
Je pense que tu peux y aller à n'importe quel moment de ta
Ouais.
carrière. Je pense même que en tant que junior, si vraiment tu as les moyens de t'expatrier, ça peut être encore plus intéressant que. Alors après, je connais pas le marché des villes en France, mais vraiment, si je prends l'état du marché à Lille, quand moi je suis parti. Bah, c'était beaucoup plus intéressant de chercher du travail à Montréal que à Lille en 2015, par exemple. Genre
D'accord.
le nombre de sociétés qui recrutent, le nombre de startups qui recrutent, le nombre d'expertises différentes qui sont demandées, bah, à Montréal, c'est vraiment très large.
Ouais. Et tu nous dis il faut avoir les moyens, alors sans forcément rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut, c'est enfin, quelles sont les qualités ou les moyens justement pour s'expatrier comme ça? Est-ce que c'est avant tout t'as besoin d'un rapport au risque qui est assez correct ou peut-être qu'il suffit juste d'avoir une certaine somme d'argent et puis c'est fait. Enfin, quels sont les prérequis si quelqu'un demain il vient te voir et te dit voilà, moi j'habite à Paris, j'habite à Lille, j'habite à Montpellier, j'ai envie de m'expatrier au Canada. C'est quoi la checklist?
Ben, quand je dis les moyens, en premier, c'est les moyens financiers. Parce que chaque permis de travail, ça te coûte environ 150 euros. Et puis la résidence permanente, ça te coûte environ 1500 euros. Et puis après, bah forcément, tu as tout ce qui est frais de roulement, entre guillemets, genre billets d'avion, louer un appart là-bas, etc. Donc tout ça, ça crée des frais. Si tu veux déménager, si tu veux ramener des meubles, etc., tu dois payer des containers, ça coûte cher aussi. Donc déjà, en premier, faut quand même avoir des moyens financiers. En fait, en premier, il faut avoir l'âge d'abord requis, parce que je pense qu'après 28 ans, c'est compliqué. Moi, le permis de travail que j'ai eu, je l'ai eu en ce qu'on appelle un jeune professionnel. Donc, c'est quand tu trouves ton travail, c'est quand tu as déjà un contrat signé avant de demander ton permis de travail. Et puis ça s'arrête à 28 ans, si je ne dis pas de bêtises.
D'accord.
Donc, en fait, ouais, déjà, la première vraie condition pour avoir un accès assez plus facilité, c'est l'âge. Après 28 ans, je ne sais pas comment ça se passe pour pouvoir venir au Canada. Je pense que c'est plus compliqué. Ensuite, c'est les moyens financiers. Et puis après, je pense que c'est aussi le troisième, je dirais, plus la résilience de t'acclimater à une nouvelle culture, d'être loin de ta famille, d'être loin de tes amis. Tu sais, y a un peu un aspect d'être capable d'encaisser, parce que c'est quand même un bouleversement dans ta vie. Tu vas passer par des périodes plus compliquées, et puis tu n'auras pas forcément un entourage qui va être là pour t'aider. Donc ça fait un grand changement. Mais après, plus le temps passe, et puis forcément, bah, on est humain, on s'adapte, et puis au plus ça va, là. Mais c'est vraiment le début qui est vraiment assez stressant, parce que tu as les démarches administratives, tu as les frais, et puis tu as l'acclimatation à une nouvelle culture, à un nouvel environnement. Même si Montréal, c'est loin d'être ce qui est le plus loin de la culture française, c'est quand même un peu une exception en Amérique du Nord. La ville de Montréal, et puis même le Québec, c'est quand même une culture à part entière, un peu entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc je pense, en tant que Français, c'est vraiment pas le pire endroit pour s'acclimater.
Ouais,
Mais
carrément.
ouais, c'est ça. Le top 3, ce serait ça, je
Et donc du coup, toi qui... Donc là, ça fait quoi? Ça fait à peu près 5-6 ans que tu es au Canada, c'est ça? Donc tu as fait à peu près moitié-moitié, on va dire, moitié en France, moitié au Canada. Maintenant que... Bon, après, c'est vrai que là, il y a eu des événements comme la possibilité de rester sur le sol canadien, même si tu n'as plus de travail pendant une certaine période. Donc ça joue. Mais avec le recul, maintenant, est-ce que c'est une aventure que tu referais? Est-ce que justement, tu as trouvé des choses au Canada que tu n'aurais pas pu ou difficilement trouver en France, aussi bien niveau personnel, donc tout ce qui est culturel, niveau de vie, etc., que professionnel.
Alors, au niveau perso, je pense, en termes d'ouverture d'esprit, ça m'a vraiment beaucoup fait changer, je pense. Le fait de rentrer dans une nouvelle culture, le fait de découvrir des nouvelles personnes, une nouvelle façon de travailler, etc. Ça m'a, je trouve que, et puis je pense que mon entourage me l'a déjà fait remarquer, que j'ai quand même beaucoup changé en termes de vision de la vie, etc. Après, au niveau professionnel, alors ça, forcément, ça dépend de là où tu vas travailler. Mais mon expérience dans mon emploi actuel, ça m'a fait vraiment évoluer en tant que dev. En fait, j'ai l'impression d'avoir quasiment rien appris pendant ma carrière en France, et d'avoir tout appris, ce que je sais de ma culture de dev, entre guillemets, aujourd'hui, depuis que je suis à Montréal. Alors, je ne dis pas que c'est lié à Montréal, ou c'est directement lié à mes expériences personnelles, à mon employeur actuel et aux emplois que j'ai eus avant. Mais ouais, au niveau connaissances techniques, j'ai vraiment, vraiment beaucoup appris depuis que je suis à Montréal.
Ouais, c'est surprenant parce que bon bah c'est vrai que quand on sort d'école, quand on sort de ses études supérieures, on est un enfant et donc forcément on se nourrit à droite à gauche et on grandit hyper rapidement, on engrange une quantité de connaissances incroyable et puis forcément au fur et à mesure du temps, enfin moi c'est l'impression que j'en ai, ça s'étouffe un peu et là d'après ce que tu nous dis c'est un peu le contraire dans ton cas quoi.
Ouais, parce qu'en fait, moi, j'ai pas fait beaucoup d'études, parce qu'en fait, en termes d'études informatiques, développement pur, j'ai juste fait 2 ans, j'ai juste fait mon BTS développeur d'application. Après, je me suis orienté vers une licence pro réseau et télécommunication. Honnêtement, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça.
Ouais.
Genre, j'étais un peu perdu pendant mes études et puis je me suis dit, bon, bah, j'ai des amis qui vont faire ça, je vais faire ça. Mais c'est une année qui m'a rien apporté. Donc, au final, en termes de formation de développeur académique, j'ai juste eu 2 ans. Et puis, on va dire que les expériences que j'ai faites en France, ce n'était pas des milieux, enfin, ce n'était pas des expériences qui étaient très, je sais pas comment dire ça, genre, très challengeantes. On ne me demandait pas de résoudre des problèmes vraiment, vraiment complexes. Je trouve qu'on essayait plus de prendre le peu de compétences que j'avais et puis de les faire genre, et puis de les mettre à profit quelque part là. Genre, j'ai pas
Ouais.
travaillé sur des projets, j'ai fait beaucoup de maintenance par exemple, tu vois, beaucoup de debugging. J'ai jamais vraiment travaillé sur des produits en pleine croissance ou des choses comme ça. J'ai travaillé sur des plateformes e-commerce, sur des outils clients lourds internes, sur des applications qui étaient très très matures, qui tournait depuis plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Donc, on ne demandait pas vraiment de connaître des nouvelles librairies ou des nouveaux frameworks ou des nouvelles façons de faire. Et ce n'était pas des expériences qui demandaient une culture de dev vraiment avancée. Et puis, je mets le blâme sur moi. C'est aussi moi qui ai pris un peu ce que je trouvais à chaque fois, qui ai pris un peu les premières choses que je trouvais, parce que je n'avais pas forcément un profil très, très intéressant en termes de techno, etc. Genre, oui, je travaillais dans des technos qui étaient très recherchés, mais j'avais pas un niveau très élevé en fait. Donc forcément, j'avais juste accès à des jobs qui ne demandaient pas un très haut niveau de dev. Donc j'ai pas appris beaucoup. Et puis il faut aussi
D'accord.
dire que j'avais pas le mindset d'auto-apprentissage et puis de veille technologique. Genre, je faisais mon boulot de dev de 8 à 5, ou je sais plus trop mes horaires. Et puis je rentrais chez moi et je pensais plus à du dev, je faisais plus rien là, genre. C'était pas du tout une passion en dehors de mes heures de travail. C'était vraiment pour manger, pour payer mon loyer. Et ça a changé quand je suis arrivé à Montréal. Enfin, ça a changé quand je suis arrivé chez mon employeur actuel, où j'ai été
Ouais.
challengé, où on m'a demandé de faire des choses qui n'étaient pas du tout dans mon petit cercle de confort de mes compétences. Et puis là, j'ai dû chercher, j'ai dû faire des formations, j'ai dû apprendre. Et puis ça m'a redonné le goût d'apprendre, en fait. Et puis ce goût d'apprendre, je l'avais complètement perdu. Pendant mes études même, et puis après pendant ma carrière, parce que j'en avais pas le besoin. Et là, le fait de rentrer dans un cadre, dans une société qui me force à apprendre, qui me force à challenger, bah, ça m'a redonné le goût à l'apprentissage. Et puis je me suis retrouvé à faire des formations chez moi le soir, qui n'étaient même pas demandées par mon employeur, mais juste tomber sur des sujets, ça m'intéressait. Et puis je pense que c'est vraiment plus que genre par rapport à Montréal, mon employeur, etc. C'est vraiment plus un switch d'état d'esprit que j'ai dû faire en étant challengé, que vraiment quelque chose qui est lié à l'endroit où j'étais.
Ouais, ok, donc effectivement, oui, il y a la culture canadienne a sûrement joué un peu, mais effectivement, comme tu dis, c'est avant tout toi, ton mindset et le fait d'aller chercher des connaissances par soi-même, quoi. Et c'est hyper intéressant ce que tu nous dis parce que ça peut être rassurant dans un sens pour quelqu'un qui peut-être sort d'école ou est dans ta situation il y a 7-8 ans, c'est-à-dire qu'il est dans une SS2I ou dans une entreprise, on va dire classique, son job lui plaît, mais sans plus, et il a envie hein, d'un peu de challenge, bah c'est hyper rassurant ce que tu dis, parce que ça veut dire que... Enfin, moi, personnellement, j'ai un peu l'impression, et je pense que ça vient des reportages qu'on voit à la télé, mais qu'il faut être un peu un surdoué dans sa thématique, dans son domaine, pour pouvoir justement aller travailler aux États-Unis ou au Canada. Tu sais, à chaque fois, ils disent, ouais, il y a des visas, je sais pas, des... C'est ça, ouais, l'élite, ou alors je crois même qu'il existe des visas qui s'appellent des visas talents ou des trucs comme ça, et donc ça peut faire assez peur, mais d'après ce que tu nous dis, bon, voilà, il faut quand même un certain socle de compétences, mais c'est tout à fait possible avec un petit peu de travail et de recherche, quoi.
Ouais, c'est ça. Honnêtement, genre, je vais parler vraiment franchement et crûment. Je trouve que j'étais vraiment un très mauvais dev en arrivant à Montréal, comparé à, genre, par rapport à mon niveau d'expérience. Pour un dev qui avait 6 ans d'expérience, j'avais, genre, en plus, un dev entre guillemets full stack, vu que j'avais fait du web de façon généraliste. En fait, mon environnement, c'était .NET. Donc, j'avais commencé en webform, et puis après, forcément, j'avais fait du JavaScript avec jQuery à l'époque, il y a très longtemps. Donc, j'étais quand même censé avoir un background qui était assez full stack. Genre, j'avais aucune idée de comment le monde du développement web y fonctionnait, en fait. Genre, je travaillais vraiment à l'ancienne, entre guillemets, parce que les expériences que j'avais eues, c'était des environnements qui étaient assez anciens. J'avais jamais travaillé sur des environnements vraiment récents. Donc, j'avais une façon de travailler qui était vraiment à l'ancienne. Et puis, c'est un peu pour ça aussi que j'étais pas challengé à apprendre des nouvelles choses, parce que j'en avais vraiment pas besoin. Genre, j'avais pas besoin d'apprendre pour faire mon travail. Donc, j'étais vraiment un dev très, très basique. Mais c'est ça. C'est vraiment en arrivant sur des projets. Donc, par exemple, quand je suis arrivé chez mon employeur actuel, au début, j'étais dans une partie plus service, entre guillemets. Donc, c'était des gens qui venaient les voir avec des idées de projet et puis leur fournissaient une équipe pour les réaliser. Donc, forcément, chaque projet, tu recommençais de zéro. Donc, tu découvrais la phase de comment setuper un projet web, que ce soit le back-end, le front, la BD. On se challengeait pour choisir quel langage, quel framework qu'on allait utiliser. Tout ça, c'était des discussions que j'avais jamais eues. Donc, forcément, en arrivant dans des teams qui ont besoin d'une expertise, ou au moins, tu sais, qui ont besoin que tu participes à des discussions comme ça, bah, soit tu vas te renseigner sur ce qui se fait actuellement, sur pourquoi un framework est plus intéressant qu'un autre, pourquoi un langage est plus intéressant qu'un autre, pourquoi une BD est plus intéressante qu'une autre, soit tu es complètement largué dans les réunions et puis tu as juste l'impression d'entendre une autre langue. Donc, j'avais vraiment pas le choix d'apprendre plus. Et puis, pour revenir à ce que tu disais, que les médias, entre guillemets, quand ils parlent d'expatriation, ils laissent penser que c'est l'élite. Ouais, comme je disais, vraiment, c'est vraiment pas du tout ça. Là, n'importe qui peut, même un développeur junior, peut tenter sa chance à Montréal. Et puis, je suis convaincu qu'il trouvera du travail. Parce qu'au final, le seul critère qui dit si tu peux prétendre à un boulot à Montréal, c'est le marché du travail, c'est si les gens recherchent. Là, actuellement, ils recherchent vraiment beaucoup. Et puis, c'est tellement devenu la norme à Montréal d'engager des expatriés, encore plus des Français, qu'il y a vraiment aucune barrière pour un dev français d'aller à Montréal, mis à part l'âge, comme je dis, parce que je pense qu'après 28 ans, c'est plus compliqué.
Donc là, on a une bonne vision, je trouve, un peu de ton activité de jour, on va dire. Mais t'es pas que tu n'es pas que salarié, et en fait, ta deuxième activité, une fois que tu as voilà, de nuit, moi, elle m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, je me dis que, enfin, je sais plus si c'est en introduction ou en off qu'on se disait ça, mais c'est vrai que moi, j'ai cette croyance qui est peut-être une croyance limitante, qui est que, voilà, une entreprise, en tout cas, enfin, monter une entreprise dans les premières années, ça demande énormément d'efforts, énormément d'énergie et énormément de temps. Et pour moi, j'ai un peu l'impression que un CDI, que ce soit en France, au Canada ou aux États-Unis, parce que bon, c'est des cultures quand même assez similaires, donc il y a une charge de travail qui, on va dire, est à peu près équivalente. Mais pour moi, ça reste difficilement compatible, voire même incompatible. Donc déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est cette fameuse activité de nuit? Et comme ça, après, on pourra déjà avoir un point de vue là-dessus.
Alors, mon activité nocturne, ça s'appelle Nitro. C'est un outil de rétro. Donc, c'est NEATRO. C'est un outil de rétrospective en ligne. Donc, en fait, les rétrospectives, c'est une activité, c'est une réunion que tu fais avec ton équipe. Ça vient de l'agilité, ça vient d'un framework qui s'appelle Scrum, et puis qui fait travailler les équipes par sprint de 2 semaines. Et puis, c'est un framework qui pousse vraiment beaucoup à l'amélioration continue, au fait d'être agile, au fait de limiter les risques. Donc, en gros, de se remettre en question, de faire un point toutes les 2 semaines sur où on en est, où est-ce qu'on va, pour limiter au maximum le risque dans ta façon de faire des projets. Et puis, en fait, dans ce framework, il y a une activité qui s'appelle la rétrospective. Et puis, la rétrospective, en fait, c'est une activité où tu te réunis avec ton équipe, tu discutes de tout ce qui s'est passé dans les 2 dernières semaines. Tu discutes de ce qui s'est bien passé, de ce qui ne s'est pas bien passé, de ce qu'on peut améliorer. Tu peux trouver plein de thèmes différents à aborder. Et puis là, tu brainstormes avec ton équipe sur comment améliorer la situation pour les 2 prochaines semaines. Donc, en fait, tu fais un brainstorming. Et puis, à la fin, l'output de la rétrospective, ça doit être un plan d'action avec une sorte de to-do list de choses qu'il faut faire pour améliorer la situation, résoudre les problèmes qui ont été priorisés pendant cette rétrospective. Et puis, on s'en reparle dans 2 semaines à la prochaine rétrospective pour voir si ça a marché, si on s'est amélioré en continu. Puis, en fait, la promesse, entre guillemets, c'est qu'en faisant ça toutes les 2 semaines, toutes les X semaines, ça dépend comment tu travailles, en faisant des rétrospectives de façon récurrente, tu vas améliorer ton équipe, améliorer tes process, et au final, tu vas devenir une équipe plus performante. Et qui est plus performante et plus efficace à livrer de la valeur, livrer de la qualité dans un produit. Donc ça, c'est l'activité que Nitro permet de faire en ligne, parce que c'est un outil, c'est un SaaS, donc c'est une application web. Et puis en fait, c'est ce projet, ce produit-là est né en fait de problématiques que moi j'ai eues avec mes collègues en faisant des rétrospectives de façon régulière avec mon équipe. On a commencé à identifier plein de petits problèmes, et puis on s'est dit, ben, et si on essayait de faire d'apporter une solution à ces problèmes-là avec un produit?
Ok, top. Et est-ce que tu peux nous remettre un peu tout ça dans le contexte? Quand est-ce que tu as commencé à travailler sur cette startup? Je pense qu'on peut encore appeler ça une startup. Donc quand est-ce que tu as eu l'idée? Quand est-ce que tu as commencé à travailler dessus? Et comment s'est un peu passée cette naissance? Est-ce que tu as bossé là-dessus dans ton coin? Est-ce que tu t'es associé?
Alors, l'idée, elle est née en 2018. Donc, on était quatre personnes. Donc, moi, un autre dev, un designer et un coach agile. Alors, en fait, c'est le designer qui… En fait, on parlait régulièrement des problèmes liés à nos rétrospectives. Et puis, c'est le designer en soirée, en racontant sa vie au travail à un de ses amis, qui s'est dit, tiens, et si… Il y a moyen de faire un outil pour pallier à ça. Parce que nos problèmes, c'était surtout des problèmes d'historisation, de suivi, de visibilité. Qu'un outil pouvait régler facilement. Donc, on s'était déjà dit ensemble qu'on aimerait bien monter un produit pour l'expérience, pour le, bah, tu sais, pour le trip de monter un produit avec ses amis. Et puis en fait, cette opportunité-là, elle est arrivée, ces problèmes-là sont arrivés. Le design, donc Julien, mon partenaire, a eu l'idée de faire un outil. Et puis c'est comme ça que ça a germé. Il nous en a parlé. Et puis on s'est dit, bah, OK, c'est parti. Donc ça, c'était en 2018. Le premier début, ce qu'on a fait en fait, c'est que même si ça partait d'un problème et pas juste d'une idée, on s'est dit on va valider que ça existe, que c'est vraiment un problème avant de faire quoi que ce soit. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté un typeform avec des questions sur parce qu'en fait les personnes qui animent les rétrospectives, souvent c'est des coachs agiles ou des scrum masters. Donc c'est des postes qui sont vraiment liés à l'agilité et au framework Scrum dans les entreprises. C'est eux qui facilitent les rétrospectives. Donc on s'est dit, donc comme on avait un coach agile avec nous qui était dans plein de communautés, dans des Slack, etc., on s'est dit, première action entre guillemets, genre premier MVP de notre entreprise, ça va être juste de monter un typeform avec qui demande ce que c'est les challenges dans la vie des scrum masters, des coachs avec leurs équipes, et puis de valider que les problématiques que nous on a vues, ça remonte. Donc forcément, on a orienté un petit peu le typeform vis-à-vis des rétrospectives, on a mis plein de choix de réponses et puis on a glissé un peu nos problématiques dedans. Le coach l'a partagé dans plein de communautés et puis le feedback nous a montré que bah, nos problématiques à nous remontaient à des bons pourcentages dans les réponses au typeform. Je pense qu'on a eu une petite centaine de réponses. Donc c'était quand même assez intéressant comme data pour partir. Donc première étape, on a validé la problématique. Donc là-dessus, on était clair. Ce qu'on a vu au niveau des rétrospectives, c'est des vrais problèmes. On peut commencer à travailler là-dessus. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est que donc c'était vraiment très cool au début, c'est qu'on se réunissait une fois par semaine pour discuter. On s'est pas mis de pression, on s'est pas dit il faut vraiment qu'on avance le plus vite possible. On s'est juste dit ben on se fait un point par semaine pour discuter. À la fin de cette discussion-là, en gros, c'est une discussion de design, en fait, d'idéation sur le produit directement, sur comment le produit peut répondre aux problématiques. Et puis, à la fin de cette réunion, on se donnait des action items, un peu comme on fait dans une rétrospective. On se donnait une to-do list. Et puis, le coach devait parler à plus de gens dans une communauté pour valider ça. Le designer devait faire quelques prototypes pour essayer d'avoir une base de discussion. Nous, en tant que dev, on devait faire un petit POC pour limiter les risques. Par exemple, en fait, la rétrospective, c'est un board interactif. Donc, on utilise WebSocket. Et moi, je n'avais jamais utilisé WebSocket. Je ne connaissais même pas ce protocole-là. Donc, j'ai fait un POC avec l'autre dev pour juste valider qu'on arrivait à faire quelque chose de bien au niveau architecture, performant, etc., par rapport à WebSocket. Donc, on faisait des petits action items comme ça. Et puis, en fait, petit à petit, séance de prototypage après séance de prototypage, POC après POC, on a commencé à avoir une sorte de base d'application parce que forcément, on raffinait notre code au fur et à mesure. Et puis, les prototypes se transformaient en maquettes qu'on implémentait pour avoir encore des discussions, pour essayer l'outil ensemble, etc. Donc là, c'était la période où, en fait, à partir de ce moment-là, c'est le moment où forcément on a commencé à mettre plus de temps. Parce qu'au début, c'était juste une réunion par semaine et puis des petites recherches aux alentours. Après, c'est devenu, bah, il y avait des besoins de dev, des besoins de design.
Ouais, c'est ça, parce qu'il faut, il faut rappeler que pendant toute cette période-là, et encore aujourd'hui, t'as ton job à côté, quoi.
Donc, c'était
Ok.
toujours le soir et les week-ends où je faisais ça. Donc, au début, c'était plus cool parce que forcément, tu sais, c'était juste pour aller d'une semaine à l'autre, pour avoir des discussions. Donc, ça allait. Donc, en fait, je pense qu'on a commencé. Alors, je pense qu'on a commencé fin 2018 ou septembre 2018 à parler de Nitro. Donc, il y a eu toute la phase de prototypage, de POC, etc. Mais la première vraie chose qu'on a produit, en fait, excuse-moi, je skip un peu les étapes. On a validé la problématique, on a commencé à faire des prototypes, etc. Et puis, on a aussi validé tous nos prototypes, et puis avec des coachs qu'on connaissait, en fait. Donc,
D'accord.
en fait, notre focus au début, c'était vraiment valider, valider, valider. On a validé notre
Et
problématique, on a fait une. Oui, vas-y, excuse-moi.
ouais, non, non, excuse-moi, je te coupe. En fait, ce qui est très intéressant de noter, pour ceux qui connaissent pas, Typeform, en gros, c'est un Google Drive boosté aux stéroïdes. Donc, c'est un outil quand même. Enfin bon, il y a un temps de prise en main, mais c'est un outil quand même assez simple. Et typiquement, en une après-midi, tu peux mettre en place un formulaire, quoi. Donc je suppose que vous avez bossé pendant longtemps là-dessus. Mais ce qui est hyper intéressant de noter là-dedans, c'est que, et comme tu l'as beaucoup répété, c'est que vous vouliez valider une problématique. Et au début, c'est voilà. Enfin, en fait, je dis ça parce qu'il y a pas mal de personnes qui viennent me voir et qui me disent j'ai une idée, machin, machin, combien tu prendrais toi pour développer tel site, telle application? Et je leur réponds, mais en fait, le problème, il est pas là. Le problème, il n'est pas combien ça va coûter de me créer un site web. Le problème, il est déjà de vérifier que que l'idée résout justement, enfin, apporte une solution à un problème existant. Et je pense que voilà, c'était une petite parenthèse, mais pour bien noter que je ne sais pas si c'est la meilleure solution pour lancer une startup, mais en tout cas, c'est une solution qui marche. Et il faut d'abord vérifier, valider l'idée avant de se lancer dans vraiment du vrai développement où là, on code, on code, on code et ça prend du temps, quoi.
Exact. Encore plus quand tu as un travail à côté un travail de salarié à côté. Genre, on pouvait pas se permettre de se lancer corps et âme dans le développement d'une solution en sachant même pas si ça a un vrai besoin, un vrai problème.
Ouais, aussi.
C'est pour ça que le début, c'était cool, en fait. Quand je dis cool, c'est en termes de charge de travail. C'était vraiment
D'accord.
tranquille. La validation, comme je disais après, en fait, on a fait des interviews avec plein de coachs agiles, plein de Scrum Masters qu'on connaissait dans le milieu de la tech à Montréal. On leur a présenté nos prototypes. On leur a présenté même un petit peu des gifs de lab de nos POC en train de fonctionner pour vraiment là valider que notre solution ou notre ébauche de solution, nos idées répondaient quand même bien aux problèmes qu'on avait repérés. Donc encore une fois, on avance vraiment étape par étape. Au début, on valide les problèmes, ensuite on valide nos prototypes, nos solutions, et ensuite on a voulu valider le marché. Donc, pour valider le marché, ce qu'on a fait, c'est que bon, déjà, on avait une petite idée on se disait, on était quand même assez rassurés par rapport au marché, vu qu'on avait eu beaucoup de réponses à d'autres sondages pour valider les problématiques, et puis qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des problématiques avec les rétros. Donc, on s'est dit, bon, c'est plutôt bien parti. Donc, pour valider le marché, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté un site web. Est-ce que tu veux que je parle des technos qu'on utilise ou pas?
Ouais, en quelques mots, si pour ceux qui comprennent pas, bon bah c'est pas grave, et puis comme ça pourra donner quelques indications à ceux qui savent de quoi on parle.
Ça vaut le coup de mentionner les technos du site web parce que ça a été vraiment rapide et en plus gratuit à mettre en place. En
Ok.
fait, on a utilisé Gatsby, qui est un framework basé sur React pour générer des sites web statiques. Et puis tout ça, on l'a hébergé dans Netlify avec un CMS derrière pour feeder le site web statique qui est Contentful. Et en fait, tout ça, tous ces trois outils, c'est complètement gratuit. Il y a beaucoup de docs, le setup se fait vraiment bien. Donc ça nous a permis de monter un site web. Je sais pas, en quelques jours, quelques semaines. Je pense monter site web, ça a presque pris autant de temps que terminer le design. Ça a vraiment été très rapide. En fait, ce site
D'accord.
web-là, son seul but, c'était de montrer la value prop de Nitro, donc un outil de rétrospective qui résout ces problématiques-là, avec un champ pour mettre ton email et pour subscribe à une newsletter si t'es intéressé.
Ouais, c'est ça, c'est une landing page, c'est un peu l'emballage, on va dire, du produit, quoi.
Ouais.
Ok.
Donc là-dessus, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté ce site web là, et puis là, on est reparti dans une phase un peu de marketing entre guillemets, de partage, où on a balancé notre site web sur plein de communautés, sur Reddit, sur des Slack, sur des groupes Facebook, sur des groupes LinkedIn. Bon, ça, c'est la phase la moins... Ça, c'est la phase un peu la... Pas la moins cool, mais peut-être la moins drôle parce que tu vas recevoir beaucoup de... Parce que c'est clairement de l'autopromotion. Et puis, c'est un peu dur d'avoir du feedback sur un produit qui n'existe pas, donc personne ne connaît, sans passer par une phase d'autopromotion. Donc, il ne faut pas avoir peur de se taper des murs, de se faire un peu crier dessus de temps en temps parce que tu ne respectes pas les règles d'un groupe et tout. Alors, forcément, si tu ne respectes pas les règles d'un groupe... Genre, je ne dis pas qu'il faut poster dans un groupe Facebook en étant conscient que tu n'as pas le droit, mais ça peut arriver que tu poses dans un groupe Facebook qui refuse l'autopromotion et puis tu ne l'as pas vu dans les règles, des choses comme ça. Donc, ça se peut que tu te fasses un peu insulter de temps en temps. Mais le but, c'est de ne pas le prendre perso et puis de pas se braquer, de juste être super respectueux et puis de retirer ses posts quand ça ne va pas. C'est un peu genre les... Genre dans ces phases-là de partage, c'est un peu ça le problème entre guillemets que tu tapes, c'est que c'est vraiment dur de faire parler de ton outil sans parler d'un outil que personne connaît.
D'accord.
C'est plus ça le point que je veux aborder, c'est que l'autopromotion c'est assez mal vu, donc faut faire attention. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a partagé dans le plus d'endroits possible, et puis on a quand même réussi à avoir des visites dessus, mais c'était vraiment pas beaucoup. Mais on a quand même, je pense, une cinquantaine ou une centaine de personnes qui ont mis leur email parce qu'ils étaient intéressés par le produit. Donc, à ce stade-là, c'est vraiment dur d'avoir des chiffres, tu sais, de te dire, bah voilà, il me faut 35 personnes pour valider qu'il y a un marché. S'il y avait eu 3 personnes, on aurait dit, bon, bah, ça ne sert à rien. Mais là, vu la difficulté de partager une app, de faire de l'autopromotion, on trouvait que je pense qu'on a eu peut-être 60 personnes, on trouvait que c'était quand même un bon début en quelques semaines. Donc on s'est dit, allez, ben, on va plus loin, on commence à monter un MVP. Donc, donc si je reprends un peu les dates, l'idée, elle a commencé en septembre 2018, je pense. Le site web a été mis en place en juin 2019, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on a quand même une longue période de validation. Parce qu'on l'a pris à la cool aussi. Tu sais, au début, c'était vraiment un side project. On n'avait pas de... On se mettait pas du tout de pression, il faut qu'on livre, on se mettait pas de deadline et tout. C'est quand même parti très, très tranquillement. Et puis après, le site web a été lancé en juin 2019 et la bêta est sortie en octobre 2019. Donc okay. Là, entre juin et octobre, c'est là où forcément on a eu beaucoup travaillé, beaucoup de design, beaucoup de dev pour arriver à la bêta du projet. Et puis en fait, on a laissé Nitro en bêta de... octobre 2019 à janvier 2020. Et en janvier 2020, en fait, on a déployé notre système de paiement et on a passé l'app en payante avec un essai gratuit d'un mois. Et là, depuis janvier 2020, en fait, donc on a eu une première vente super vite. C'était drôle. Je pense qu'on a eu une première vente. Donc, en fait, le pricing, juste pour clarifier, c'est que tu sign up, tu te crées ton équipe. T'invites les gens de ton équipe dans l'application et puis là, tu peux partir une rétrospective. Tu peux lancer ta rétro et puis faire ta rétro avec les gens de ton équipe et puis continuer comme ça toutes les semaines. Tu as ton data qui est historisé, on te propose des idées pour tes rétros. Enfin, on facilite vraiment la vie d'une personne qui veut faire une rétro. Parce que comme, en fait, je ne l'ai pas mentionné, mais en fait, la rétrospective, à la base, comment tu l'as fait, c'est que tu te réunis dans une pièce. Tu prends un tableau blanc, les gens écrivent des post-it et puis ils collent les post-it sur le tableau. D'accord. Et en fait, c'est ça la base de la discussion. Donc déjà, à la base, c'est quand même une activité qui avait un peu un besoin d'être informatisée, entre guillemets, pour que ce soit plus facile de se balader dans les rétros et puis plus agréable d'interagir pendant une rétro. Donc tout ça pour revenir en janvier, où on a commercialisé l'application. Et puis, au début, c'était vraiment très lent. Il se passait vraiment rien là. Genre, on a eu une vente rapidement au bout d'une semaine. On s'est dit, ah, ça y est, on a touché le gros lot, c'est parti. Et puis là, pendant un mois et demi, il ne s'est rien passé. Je pense les 6 premiers mois, on a fait peut-être une vente par mois. Et encore, je ne suis même pas sûr. Je pense qu'il y a des mois où on n'a pas fait de vente. En sachant qu'en plus, il y a eu le Covid qui est arrivé en mars 2020, et malgré ça, ça n'a pas non plus fait exploser nos ventes. Parce qu'en fait, mon discours, il est un petit peu décousu. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait nos problématiques de base qu'on avait validées. Et puis, en lançant la bêta et en commercialisant l'app, notre but, c'était de récolter le plus de feedback de nos utilisateurs. En fait, à partir du moment où on a lancé l'app, Notre premier focus, c'était récolter le plus de feedback possible. Tout ça, ça nous a permis d'améliorer l'application au fur et à mesure et puis de parler avec nos utilisateurs. Et en fait, on s'est rendu compte que les problématiques de base, ce n'était pas vraiment ça les problématiques principales que notre app, elle résolvait. La problématique principale, c'était faire des rétros en ligne avec une équipe distribuée.
D'accord.
Et en fait, on a vite fait un switch, même au niveau de notre website, en se rendant compte que, en fait, c'est vraiment l'espèce de product market fit, là, c'est qu'on pensait qu'on sortait un produit pour un marché qui avait des petits problèmes pendant ses rétros, mais en fait, notre produit, il répondait à un marché qui avait besoin de faire des rétros avec des équipes à distance.
Ouais, ok. Et là, justement, ouais, ça appuie encore plus l'importance de tester avant de passer 6 mois ou 1 an à développer quelque chose, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis, à s'entêter, faut vraiment pas tomber amoureux, entre guillemets, des solutions qu'on crée. Faut vraiment se dire qu'elles sont tout le temps challengeables et puis qu'il faut les challenger en permanence pour qu'elles se rapprochent le plus de la réalité du marché auquel tu t'adresses. Donc, c'est vraiment ça qu'on a fait là. On est sorti de la phase de validation avec une bêta. Et puis, après, à partir de la bêta, on est rentré dans une phase de feedback, de récolte de feedback, de récolte de data pour ajuster l'application et puis qu'elle fitte le plus possible le marché qu'on est en train d'adresser. Donc, et puis après, en fait, le Covid est arrivé. Donc, c'est sûr que le Covid va. En fait, c'est même pas qu'on s'est dit. On a vu tout de suite que toutes les équipes passaient en remote, en télétravail. Donc, on s'est dit, c'est sûr que le besoin pour notre app va exploser. Et puis, en fait, même pas. Quand tu regardes nos ventes de mars, avril, mai, ça restait à très peu de ventes par mois, là, peut-être une ou deux ventes par mois.
Okay.
Ça a augmenté vraiment tout doucement.
Quand tu dis des ventes, donc c'est le produit est accessible sur abonnement, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est la vente, c'est une souscription en fait. C'est la vente
d'un abonnement. D'accord.
C'est une personne qui va cliquer sur subscribe dans l'application et puis qui va payer $20 par mois pour son équipe.
Et est-ce que les 2-3 ventes qui ont été faites en début d'année, est-ce que ces personnes-là continuaient à payer ou elles se sont désinscrites entre-temps ?
Notre première vente, je pense que l'utilisateur est parti au bout de 9 mois ou 10 mois, je pense.
D'accord, oui, ce qui est quand même pas mal, quoi.
Ce qui est quand même cool, ouais. En fait, au niveau de churn, on est quand même assez bon. On n'a pas vraiment beaucoup de churn.
D'accord.
Nos problématiques en ce moment, c'est un peu plus tout ce qui est acquisition, là, parce que on a tous une expertise très axée produit. Actuellement, on est 3. Dans la société, on a un PO, un designer et moi en tant que développeur. Donc, on a vraiment une expertise produit, on n'a vraiment pas beaucoup d'expertise marketing. Donc, c'est ça notre gros challenge en ce moment. C'est vraiment à comment vendre, à qui vendre. Et puis encore une fois, pour revenir sur tout ce qui est self-promotion, un peu tout ce qui est cold emailing, etc., c'est plus on avance et plus on se rend compte à quel point c'est vraiment pas un très bon channel pour vendre ton application.
Ouais, puis surtout que c'est pas votre domaine, c'est pas ce qui vous passionne le plus.
On n'est pas des vendeurs, et puis en plus, même en tant qu'utilisateur, honnêtement, quand je suis sur un groupe Facebook ou que je suis sur un Slack et puis que je vois quelqu'un poster la promo de son application, ça me donne pas envie de cliquer. Genre, je comprends que tu aies besoin de faire ça un moment parce que c'est quoi tes autres choix, entre guillemets, si tu veux une feedback loop assez rapide sur ce que tu es en train de faire que de le partager dans des channels directs. Je comprends que tu n'as pas trop le choix. Et puis, nous, ça nous a aidé, même si ce n'est pas une pratique dont je suis très fan. Mais ce n'est pas ça qui va faire que ton app va scaler sur le long terme. Et puis, ça me permet d'arriver sur le point qui a commencé à être un driver de croissance pour nous. C'est vraiment le SEO, le content SEO. En fait, c'est écrire des blog posts et puis commencer à optimiser, à faire du SEO sur notre website. Okay. C'est vraiment ça qui a été le point de départ d'une amélioration dans l'acquisition. En plus du bouche à oreille qui est un peu, entre guillemets, automatique quand tu crées quelque chose et puis que tu commences à augmenter un petit peu le niveau de traction, tu as un bouche à oreille naturel qui se fait. Mais nous, c'est vraiment le SEO qui a été… Genre aujourd'hui, par exemple, le SEO, ça représente… Quand je dis le SEO, le trafic organique, ça représente 2/3 du trafic de notre website.
D'accord, ouais, quand même.
Et puis, ce pourcentage-là est arrivé assez vite. Je pense que déjà, en fin d'année dernière, donc un peu plus d'un an après le lancement du website, on était déjà à 2/3 de trafic organique, juste avec quelques articles qu'on avait écrits et puis qu'on avait partagés. C'est ça qui a été le premier driver de croissance, et puis actuellement qui est même encore le seul driver de croissance vraiment qui scale de l'application.
D'accord. Et en termes de, enfin, est-ce que tu peux chiffrer un peu cette activité-là en termes de visiteurs, par exemple, sur le site aujourd'hui, ça en est où?
Alors en termes, attends, est-ce que je vais juste lancer, j'étais pas prêt pour la question. Je vais
En
juste
gros, hein, mais voilà, est-ce que tu peux donner quelques chiffres qui
en gros, je
montrent un
pense
peu.
qu'on est à 4000 visites par mois.
D'accord.
Je vais juste lancer Google Analytics pour vérifier, mais ouais, je pense qu'on est à 4000 visites par mois actuellement. Donc 66% de ces visites-là, ouais, c'est ça. Genre là, on est à 3700 visites dans les 30 derniers jours.
D'accord.
Comme je disais, 66% de ces visites-là, c'est du organique. On a en gros 3-4 articles qui sont les gros apporteurs de trafic sur le site web. Et puis qui parlent directement forcément des problématiques qu'on est en train de résoudre. Par exemple, notre article qui ramène le plus de contenu, c'est un article qui parle de comment faire une rétrospective à distance.
D'accord.
Vraiment très simplement. Et puis par exemple, sur les keywords en anglais qu'on cible, c'est remote rétrospective. Et puis
Ouais, ok.
c'est notre article qui performe le plus parce que ben, forcément, il répond à un besoin, il y a vraiment une intention de recherche derrière cet article-là. Et puis notre outil répond directement à cette problématique-là. Donc on a vraiment réussi à alors c'était quasiment évident qu'il fallait écrire cet article-là, mais ça illustre un peu la façon dont il faut penser sa stratégie de contenu. C'est qu'il faut vraiment tisser un lien entre ton produit, ton article et une intention de recherche réelle, une vraie problématique que les gens vont taper dans Google. Et puis que tu vas essayer de convertir en visite sur ton site.
Et donc aujourd'hui, donc vous êtes trois dans cette start-up. Où en est le projet? Est-ce que vous commencez à pouvoir en vivre? Enfin, quelle est toi ta vision de ce projet-là? Est-ce que tu comptes, enfin, est-ce que tu montes cette boîte-là pour un jour justement te mettre à 100% dedans et délaisser un peu ton job, soit en restant au Canada, soit en revenant en France par exemple, ou est-ce que, enfin, c'est quoi ta vision en ce moment?
Bah, en ce moment, on a quand même eu beaucoup de croissance depuis la fin d'année dernière. En fait, en août de l'année dernière, notre MRR, c'était 120 $ par mois.
D'accord.
Et là, ce mois-ci, on close le mois de mars en étant à quasiment 2000 $ US par mois. Donc, en
D'accord.
fait, le fait qu'on ait une grosse croissance en si peu de temps, ça nous a poussé à vraiment se dire que notre futur proche, c'était d'être à temps plein sur Nitro. C'est pour ça qu'en fait, en ce moment, on est en train de rechercher, on est en train de monter un pitch deck pour aller chercher du financement. Et
Ok.
puis, en fait, ce qui se passe, c'est que Julien, mon associé, qui est designer, et moi-même, on travaille toujours à temps plein pour nos employeurs. Mais Anders, qui lui est PO, lui, il est déjà à temps plein sur l'application. Donc en fait, on s'est engagé envers lui aussi en lui disant, ben, on est dans une situation qui est pas très juste par rapport à lui, où nous deux, on a notre salaire, on a notre sécurité financière, et puis lui, il est déjà à temps plein sur Nitro. Donc nous, on s'est un peu engagé envers lui en lui disant, ben, ok, tu nous rejoins, tu passes à temps plein, mais nous, on s'engage à switcher à temps plein aussi avec toi avant la fin de l'année, avant 2022.
Ouais, ok, bah oui, puis après, ça dépendra forcément aussi de la croissance de l'application. Et est-ce que pour toi, quand tu es parti au Canada, est-ce que c'était une vision, enfin, est-ce que c'était dans tes plans de te dire, je vais m'installer au Canada pour raison X ou Y, hein, la culture ou le paysage, enfin, peu importe, et ensuite de monter une entreprise, mais comme en parallèle j'ai pu trouver un job, j'ai pu rester plusieurs années sur le territoire, ça m'a permis d'avoir certains avantages, et ensuite je vais pouvoir monter ma boîte, enfin faire grossir et surtout installer ma boîte au Canada, ou est-ce que pas du tout, tu t'es lancé au Canada, et puis après, en parallèle, tu as eu ces envies d'entreprendre?
Alors en fait, j'ai toujours eu l'envie de créer ma boîte et puis d'être mon propre boss depuis le début, depuis que je suis salarié en fait. J'ai jamais été très satisfait entre guillemets d'être salarié et puis de travailler pour quelqu'un et puis pas pour moi. Donc au fond de moi, je m'étais toujours dit, bah, comme beaucoup de gens, je pense, je m'étais toujours dit, un jour, je monterai ma société, je serai mon propre boss Et puis je serai libre, entre guillemets. J'ai toujours
Ouais.
eu ça au fond de moi, mais j'ai jamais eu ni, je pense, la motivation ou le courage, ou je sais pas comment dire ça. J'avais jamais eu le déclic pour me lancer. Quand je suis parti au Canada, c'était uniquement parce que je trouvais plus de travail qui m'intéressait en France. En gros, en France, je voulais travailler sur un produit. C'était ça que je voulais faire avant de partir au Canada. C'était trouver un produit cool et commencer à travailler pour ce produit-là. Et j'avais rien trouvé en France, donc c'est ça qui m'a poussé à partir au Canada. C'était vraiment
Okay.
être développeur sur un produit qui me plaît. Et puis en fait, le départ de Nitro, c'est vraiment venu d'une opportunité, en fait. C'est vraiment venu d'une problématique. Et puis je pense que c'est peut-être la façon la plus, je sais pas si je peux dire la plus saine, entre guillemets, de créer un produit, c'est de partir d'un problème que tu veux résoudre plus que d'une idée, tu sais.
Oui, c'est ça, ne pas avoir cette obsession de créer absolument quelque chose. Parce que si justement on va trop le chercher, bah on enfonce un peu une porte ouverte et on apporte une solution là où il n'y a pas de problème, quoi.
Ouais, c'est ça. Je pense que c'est facile de tomber dans le piège de te dire que tu veux avoir une idée révolutionnaire parce que c'est un peu ça le modèle qu'on nous montre beaucoup avec le 1% de start-up, genre Facebook, etc., où le gars a une idée qui est vraiment, qui répond parfaitement à un besoin du moment. Mais c'est vraiment une minorité, là. En principe, le problème doit venir à toi. Tu dois pas aller créer un problème avec une solution. Je pense pas, tu sais, à part quand tu es déjà impliqué dans un marché ou que tu es Apple et puis que tu sais, tu lances des trucs comme l'iPad où il n'y a pas forcément un marché, mais tu as tellement une influence que tu arrives à créer ton propre marché. Si tu pars de rien, je pense le plus safe, vraiment la chose la plus, ouais, vraiment la chose la plus safe à faire, c'est identifier un problème et le résoudre. Je pense que si tu pars dans ce sens-là, tu limites vraiment, vraiment, vraiment le risque de te tromper et puis de perdre ton temps.
Bah écoute, c'est cool, là je pense qu'on a une bonne vision de ce que tu fais actuellement, de tes deux activités, et puis comment tu gères ça, et aussi par rapport à la sécurité dans tout ça, parce que bah, au final je pense que si tu as ton job toujours aujourd'hui, c'est un peu, c'est d'une part parce que c'est un truc qui te plaît, mais c'est aussi pour la sécurité de te dire, bah voilà, j'ai une certaine sécurité financière qui me permet de lancer ma boîte et d'y aller tranquillement, de ne pas avoir la pression, parce que t'en as peut-être déjà assez avec ton job et avec le fait d'être expatrié. Donc voilà, c'est un choix de vie. Et puis au final, on remarque que c'est pas. Bon, forcément, c'est des sacrifices, c'est des heures de travail, c'est des soirées de travail même. Mais c'est pas non plus insurmontable, quoi.
Non, c'est sûr, c'est faisable. Après, ça peut, je trouve, en fait, je pense à ça là, une autre source de problème du fait de garder ça en side project et puis de générer l'attraction, d'être impliqué, c'est un peu la répartition entre associés de la charge de travail, tu sais, parce que, en fait, bah là c'est un peu différent parce que Endor, c'est à temps plein. Mais dans le passé, on était trois, même quatre à temps partiel sur l'application. Et puis, forcément, en fonction de la vie, en fonction du travail de chaque personne, tu as plus ou moins de temps à mettre sur l'application.
Ouais, tout
Et
à fait.
puis ça, c'est des discussions difficiles qu'il faut avoir de ben, comment ça marche la répartition du temps. Parce que ce n'est pas juste que, par exemple, moi, je travaille 5 heures tous les soirs et puis 10 heures le week-end, mais qu'une autre personne de la compagnie travaille juste 5 heures par semaine, par exemple. Et puis, c'est des exemples, hein. Je ne dis pas que ça s'est passé comme ça chez nous, mais c'est des discussions qu'il faut avoir parce que c'est des situations qui peuvent arriver parce que la vie de tout le monde change et puis ça reste un side project, tout le monde a son activité principale à côté. Donc, s'il y a un truc de vraiment important, c'est vraiment mettre les choses au clair de comment se répartit notre charge de travail sur l'application et puis c'est quoi les attentes qu'on a les uns envers les autres par rapport au niveau d'implication et puis à l'implication de temps aussi dans le produit. Ça, c'est quelque chose qu'on a un peu, auquel on a dû être confronté, qu'on n'avait pas forcément bien anticipé. Bah, voilà, on est tous différents, on peut pas tous se commettre entre guillemets au même niveau. Donc, c'est vraiment important de discuter de ça là. Je pense que c'est vraiment ça le principal risque quand tu te lances avec tes associés et que tout le monde n'est pas à temps plein. Bon, ça peut être un risque quand c'est toujours un risque à temps plein, parce que tu sais, c'est pas parce que tu es à temps plein que tu es forcément à fond sur un projet. Il peut y avoir des moments de démotivation ou même plein de choses qui arrivent et qui font que tu n'es plus dedans. Mais en side project, c'est encore plus un risque parce que tu prends directement sur ton temps perso pour travailler sur ton produit. Par exemple, je sais que moi, je jouais beaucoup aux jeux vidéo avant de lancer Nitro. Et puis, c'est vraiment une activité, entre guillemets, dans laquelle j'ai dû couper pour avoir du temps à consacrer à mon entreprise.
Oui, tout à fait.
Parce que ce que je veux dire, c'est que tu prends... C'est du temps de loisir, c'est du temps perso. Vraiment, il ne faut pas oublier que c'est vraiment du temps perso que tu vas dépenser dans ton application. Et puis, c'est le temps qui est ta ressource la plus précieuse quand tu es dans un project. Mmh. Encore, quand tu es à temps plein, c'est plus l'argent, quand tu es à temps plein, qui est ta ressource la plus précieuse, entre guillemets, parce que c'est là où tu joues le plus gros risque. Mais quand tu es en side project, c'est vraiment le temps et puis la gestion du temps, la répartition du temps avec tes associés, c'est vraiment des sujets qu'il faut aborder dès le départ parce que c'est vraiment très important que ça reste équitable.
Ok, top. Bon, on retiendra ce dernier conseil, super. Et dernière petite question, parce que là, ça fait déjà pas mal de temps qu'on discute. Donc, dernière petite question pour conclure cet épisode. Est-ce que tu aurais une ressource particulière? Alors, ça peut être un livre, ça peut être un documentaire, un film, peu importe. Quelque chose qui t'a assez inspiré et que tu aimerais partager aux auditeurs?
Ok, j'ai plusieurs livres. En fait, le premier, c'est Inspired. Donc, c'est un livre sur la façon de faire des produits, sur le mindset produit, sur comment organiser sa réflexion quand on a une idée pour la transformer en produit. Ça nous a vraiment beaucoup aidé dans tout ce qui est phase d'idéation, comprendre une problématique, faire des prototypes, la valider, etc., parler aux utilisateurs. Le deuxième livre qui m'a vraiment aidé, c'est Lean Startup, qui est un livre en fait, qui t'explique comment monter sur quel est le mindset à adopter quand tu crées ta startup de zéro.
Ouais.
Et puis, c'est un livre qui pousse beaucoup à avoir un mindset, donc ce qu'ils appellent Lean, c'est très épuré. C'est vraiment, je pense, c'est un livre qui parle beaucoup du concept de MVP, de vraiment faire le minimum possible avec le plus de valeur pour prouver, pour valider au fur et à mesure que ce que tu penses, c'est vrai. Donc ça, pareil, ça nous a vraiment beaucoup, beaucoup aidé pour avoir l'état d'esprit de on bâtit le moins de choses possible et on essaie de valider le plus possible, vraiment dans l'optique de ne pas perdre de temps et de limiter le risque quand tu construis quelque chose. Et puis le troisième livre que je suis en train de lire actuellement, c'est The Hard Thing About Hard Things. Désolé pour l'accent. c'est un livre qui a été écrit par Ben Horowitz, qui est un gars qui a bossé chez Netscape au moment où ils ont lancé Netscape Navigator, où ils se battaient avec Internet Explorer, etc. Et puis qui après a été CEO de plusieurs startups dans la Silicon Valley. Et puis qui, lui, parle de toutes les choses qui sont compliquées à faire quand tu dois gérer une société. Donc, par exemple, mettre à la porte tes amis, voir tes chiffres dégringoler, voir ton principal client qui te rapporte 90% de ton chiffre d'affaires partir. C'est ça qui parle de tous les challenges dans la vie d'un CEO slash gestionnaire. Voilà, c'est les trois livres qui m'ont le plus marqué là, dans les 2-3 dernières années.
Ok, trop bien. Bah, je mettrai les liens dans la description de cet épisode. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi, Benjamin, d'avoir partagé ton expérience. C'était un grand plaisir. Et puis, peut-être à bientôt, hein, parce que là, apparemment, on est au début d'une grande aventure. Donc, peut-être à bientôt pour prendre des nouvelles de ta startup et de voir comment elle évolue.
Avec grand plaisir.
Merci, salut. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous donner votre avis avec une note et un commentaire, ou même à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux ou à votre entourage qui pourrait être intéressé. Ça nous aide énormément à nous faire connaître et à partager ces retours d'expérience à davantage de monde. En tout cas, merci pour votre écoute et moi je vous dis à la semaine prochaine.